faut que toutes les personnes qui constituent la masse deviennent pleinement conscientes de ce qui les attend,
car
c'est la même chose qui les attend toutes. Et c'est à cette condition que la masse proprement devient masse. Alors, la masse, tout naturellement, trouve le moyen de son autodéfense. C'est le mouvement de masse. On nous demande ce que nous voulons. Voici la réponse. Nous voulons le mouvement de masse. Si l'offensive est générale, nous voulons le débordement général.
Vas-y, pas de souci. Bah déjà, Monsieur Macron, pendant son élection, avait dit que soi-disant, il y aurait plus de SDF en 2018 dans la rue. Nous sommes en 2020, qu'est-ce qu'il y a plus de SDF dans la rue qu'avant? Deuxièmement, à l'heure actuelle, même des gens qui travaillent, qui gagnent 1 400 € ont 200 euros découverts. Comment ça se fait? Tout simplement parce qu'ils sont trop taxés. Tout simplement, vous travaillez, et bah comme par hasard, on retrouve encore quoi? Des taxes, ce qui fait que vous ne pouvez plus payer le logement bientôt. Si on continue... Il y a des distributions populaires, du secours populaire, c'est bien à Nice, à Lille, comme à Nice, comme à Marseille, comme à Tours, comme de partout. Mais ce qui va se passer en force, ces gens-là, ils n'ont plus de sous pour continuer à travailler. Parce qu'on préfère construire des autoroutes, on préfère faire des travaux publics, alors que ça ne sert à rien de donner de l'argent aux plus pauvres. Et si on continuerait encore, pourquoi pas ouvrir des centres d'urgence, comme le Don du Sang qui va être détruit d'ici un an pour construire des logements de bourgeois et des bureaux. Simplement à se poser la question, l'argent on l'a, les moyens on a, mais on n'a pas de moyens de faire bouger les choses parce que les politiciens ne veulent pas entendre et les médias peuvent peut-être faire entendre la chose.
Voilà. Et t'es qui toi?
Moi je suis une personne qui a vécu 3 ans dans la rue, qui maintenant s'en est sortie grâce à des amis et non pas grâce à l'État. À l'heure actuelle, certes je touche une allocation comme beaucoup de gens en France, mais hélas, c'est pas cette allocation est insuffisante, c'est que le pouvoir d'achat en France est inexistant parce que par exemple, tout est trop cher. Tout simplement, vous allez en magasin, avant, avec 60 francs, j'achetais un paquet de cigarettes, 2 steaks hachés, des pâtes. Maintenant, j'ai qu'un paquet de cigarettes ou j'ai que 2 steaks et des pâtes. C'est qu'il y a un problème quand même.
Est-ce que vous pourriez le lire ? Échanger un système qui marche contre un système qui produit 2,7 millions d'Allemands pauvres et 68 millions de Suédois au travail à 68 ans et demi, c'est impossible, c'est une honte. Nous, on a un système qui marche, système de retraite qui marche par répartition, il ne faut pas l'échanger contre un système qui ne marche pas et qui produit de la pauvreté et de la misère. C'est bon ?
Attendez. Donc ça veut dire que vous avez un peu analysé ce qui se fait déjà dans les autres pays,
oui,
où un système par points a déjà été mis en place, et vous constatez que c'est une mauvaise solution.
Oui, bien sûr, parce qu'on voit bien qu'en Allemagne, où la retraite par points est déjà mise en application, ça a produit beaucoup de pauvreté. Et en Suède, on voit des gens qui travaillent de plus en plus longtemps pour avoir une retraite à taux plein. Et ça, on n'en veut pas en France.
Quelle est votre situation ?
Moi, je suis retraité, mais je suis ici pour défendre l'intérêt, les acquis sociaux de mes anciens pour mes enfants.
Voilà. On va pas se laisser faire.
Le Cargill, en colère.
On va pas se laisser faire.
Les cheminots, en colère.
On va pas se laisser faire.
Le Cargill, en colère.
On va pas se laisser faire.
Tous ensemble, tous ensemble.
Est-ce que tu peux te présenter déjà?
Ouais, bah je m'appelle Ali, je suis cheminot à Lille.
Tu peux me dire après ces 43 jours de grève, où vous en êtes ?
Bah au bout de 43 jours, on lâche toujours pas. Voilà, on continue jusqu'au retrait de la réforme de Macron, quoi.
Et comment ça s'organise chez vous ?
Bah on essaye de faire la grève au jour le jour. Voilà, aujourd'hui, c'est un peu des grosses journées de la mobilisation. Donc voilà, il y a la manif, il y a nos assemblées générales aussi, où on décide un peu de ce qu'on fait. Et puis à Lille, on a fait voter un comité de grève aussi pour réfléchir aux actions qu'on pourrait mener en commun avec les autres secteurs, les proposer aux collègues, et puis voilà quoi.
L'argument qu'on emploie toujours dans les médias pour dénigrer le travail des cheminots et leur corporation de rouge, c'est que ce sont des privilégiés. Est-ce que tu peux me parler de ton statut de privilégié ?
Ouais, bien sûr. Bah, de toute façon, les gens qui disent ça là, chez les politiques ou sur les plateaux de télé, on voit bien qu'ils y connaissent pas grand-chose au travail. Voilà, il y a une variété de métiers chez les cheminots. Beaucoup sont difficiles, avec de la pénibilité, les horaires décalés, les horaires postés. Il y a beaucoup qui bossent en 3-8. Et puis, voilà, qui sont en déplacement, et le tout pour des salaires qui sont pas toujours très élevés. La question des privilégiés, en fait, c'est un argument qui a été un peu sorti pour tenter la division, essayer de faire croire que c'était une grève des cheminots et de la RATP. Ça n'a pas marché. Hein, ils ont déjà essayé l'année dernière pendant notre lutte contre la réforme ferroviaire. Les gens ne sont pas dupes. Hein, les travailleurs comprennent bien qu'on est des travailleurs comme les autres. Voilà, la question du statut, c'est juste en fait des conditions de travail qui sont écrites sur noir sur blanc. Mais de toute façon, il y a plein de collègues qui ne sont pas embauchés au statut dans la boîte. Hein, je crois que c'est 10% des effectifs. Et depuis le 1er janvier, la SNCF est une société anonyme. La question des privilégiés, tout ça, voilà, c'est vraiment un mythe sur lequel y a encore des politiques qui s'accrochent pour essayer de diviser les travailleurs, mais ça ne tient pas, quoi.
Tu peux me parler un peu de ton travail ?
Ouais, moi je suis chef de bord en fait, donc voilà, contrôleur. On s'occupe un peu de la sécurité des circulations, la vérification des titres, mais aussi s'assurer que tout va bien à bord des trains, que en cas de retard, tout ça, les correspondances sont assurées, s'assurer aussi que les voyageurs circulent en toute sécurité, vis-à-vis des circulations et tout. C'est un boulot, on est souvent en déplacement. On fait des découchés, hein, ça veut dire qu'on fait nos deux journées de service où on dort le soir, on dort pas chez nous. On bosse les week-ends, les jours fériés, des fois en extrême matinée, des fois en extrême soirée.
On annonce dans les médias une semaine clé pour la mobilisation.
Ouais.
Qu'est-ce que t'en penses ? Ou alors, c'est quoi d'après toi la clé ?
Bah, moi je pense que la clé c'est l'extension de la grève. On voit qu'il y a des secteurs du public qui s'y sont mis depuis la semaine dernière avec les enseignants de lycée, les profs d'université. Dans certains établissements, ils ont même voté la grève reconductible. Il y a aussi énormément de sollicitations parce que de ces secteurs-là auprès des cheminots pour qu'on s'entraide un petit peu, qu'on aille se donner du courage entre travailleurs de différents secteurs. Il y a aussi des boîtes du privé qui ont suivi. Il y a La Redoute hein, qui avait débrayé. Là, on est avec Cargill qui sont en train de mener une bagarre contre 183 licenciements dans leur usine et c'est pas le premier en date. Donc voilà, là c'est une nouvelle grève qui commence, hein. c'est l'irruption du privé avec des embryons qui commencent à pousser un peu partout, des travailleurs qui se rendent compte qu'en fait on est tous attaqués et que c'est tous ensemble qu'il faut riposter.
Tu dis c'est une nouvelle grève qui commence, seulement les cheminots ça fait déjà 43 jours qu'ils sont en grève. On imagine bien qu'ils vont pas pouvoir prolonger, reconduire cette grève indéfiniment, donc il y a un problème de temporalité.
Ouais, c'est vrai, c'est vrai qu'on est au 43e jour de grève, donc c'est 43 jours sans salaire pour la plupart d'entre nous. Moi, j'ai pas bossé depuis le 5 décembre, il y a eu plusieurs obstacles à surmonter, notamment le piège de la division dans lequel les travailleurs sont pas tombés, parce qu'au début, ils nous ont fait le coup des privilégiés, ça n'a pas marché. Ensuite, c'était le coup de la trêve pendant les fêtes. Et nous, on a tenu à dire quand même que pas de trêve sans retrait. Voilà, donc la grève, elle a eu le mérite de tenir pendant les fêtes de fin d'année et qu'il ait pas, que le soufflet soit pas retombé. Et puis, effectivement, on a un petit peu d'avance sur les autres, si j'ose dire, parce que on est au 43e jour. Mais maintenant que les gens commencent à nous rejoindre, il faut qu'on continue, quoi.
Messieurs, vous n'êtes qu'une bande d'ingrates, et moi, et parmi les nôtres, la terre donne à ses enfants jusqu'à ce que la terre se révolte. Votre mental vous a coupé du cœur, vous n'êtes plus des hommes, car la force de l'homme vient de l'intérieur et de l'amour qu'il porte. Messieurs, vous n'êtes qu'une bande d'ingrates, et moi, et parmi les nôtres, la terre donne à ses enfants jusqu'à ce que la terre se révolte. Votre mental vous a coupé du cœur, vous n'êtes plus des hommes.
Associative et ça m'intrigue votre autocollant. Est-ce que vous pouvez m'en parler ?
Bah, c'est des autocollants en fait que j'ai fait avec une imprimante à la con, hein, d'ordinateur. Mais là, c'est une version colorée. Moi, j'avais, il y a un type qui avait fait ça dans une manif et que j'avais en noir et blanc. Et là, j'ai mis un peu de couleur, quoi, en fait. Et j'ai fait des autocollants pour les gilets jaunes.
Qu'est-ce que ça représente ?
Comment ?
Qu'est-ce que ça représente ?
Là, c'est LRM. LRM avec le, la croix nazie, en fait. Mais c'est une mise en page, voilà. C'est lisible, hein, malgré tout. Puis c'est compréhensible. Au moins, on cache rien, c'est la réalité, quoi.
Donc la réalité, c'est que... LREM est un parti nazi, un parti fasciste.
Bah de fait, ouais, avec la police, y a pas de problème. Je crois que nazi, ouais, ça va bien.
Est-ce que vous pouvez expliquer un peu en quoi vous estimez que c'est un parti nazi ?
Parce qu'ils en ont rien à foutre du peuple. Macron, il en a rien à foutre. Il sait même pas qu'il y a un peuple. Il méprise, c'est tout. Et le seul truc, il utilise sa police pour rester au pouvoir. Sinon, il n'est même pas légitime. Encore, les nazis, ils ont été élus. Macron, il a été élu avec quoi, 16% enfin, ou 10%, je ne sais plus. Donc, il n'y a aucune légitimité, aucune crédibilité. Il fait que mentir. C'est un salopard qu'il faut dégager, puis c'est tout.
Vous, vous êtes gilet jaune ?
Comment ?
Vous êtes gilet jaune ?
Oui, je suis gilet jaune. Bah, ça se voit, hein.
Oui, mais à la radio, ça ne se voit pas.
Ouais, ouais. Non, donc voilà. Bon, on est un petit groupe et puis on fait des tracts, là. J'ai fait quelques autocollants, mais c'était pour tester un peu, pour voir si ça colle bien. Mais bon, on fait des tracts, des affiches pour appeler aux manifs aussi. Parce qu'on trouve que, franchement, les syndicats, parfois, ils font pas leur boulot. Hein. Bah ouais, il y a des potentialités qui sont pas utilisées, quoi. Au niveau de la mobilisation. Bah, par exemple, les affiches, il devrait y avoir des affiches partout dans la ville. Et c'est loin d'être le cas. Pareil pour les autocollants. Bon, là, on fait un essai. Et puis, sur la mobilisation, bon, ce soir, il y a une AG. Mais chaque corporation reste dans son coin, quoi. Et ça, c'est pas bon. Et puis, bon, ici, les manifs comme ça traînent savate. C'est pas non plus l'idéal, quoi. Les gilets jaunes, ils ont montré quand même une voie différente aussi l'année passée, quoi. Et c'est des voies à suivre. Parce que le pouvoir a eu peur. Là on fait peur à personne. Là. Mais enfin, bon, c'est important quand même, hein, qu'il y ait tout ça, quoi.
Et vous pensez...
L'important, c'est le blocage des ports, enfin, le blocage de l'économie.
C'est ça pour vous la voie à suivre. Quand vous parlez des gilets jaunes, l'exemple, c'est le blocage des ronds-points, c'est, c'est plutôt les manifestations monstres à Paris.
Bloquer l'économie, c'est primordial. Il n'y a que ça qui peut leur faire peur.
Samedi dernier, c'est ici que nous avons été bloqués par la police. Tout à fait, on s'en souvient.
Tout à fait.
Et on a bien résisté parce que j'ai l'impression que les gaz lacrymaux qu'ils nous ont envoyés ne marchaient pas. Et ils ne marchaient pas parce que je pense qu'on a trouvé l'antidote. C'est un morceau de musique. On l'a passé. Bon, là, ça ne piquait pas.
Appelle la ciao. Oh, le partisano.
Vous voyez Cargill au Bourdin là, 183 licenciements. Et j'y après Fivelilcaï. Après Le Verre au Bourdin, après Roubaix, c'est ça, Tourcoing, Les Houillères, la métallurgie, on se demande ce qui va rester pour le Nord. C'est ça. Voilà, donc alors la colère, elle est là, devant vous, c'est ça. Donc il faut faire quelque chose pour le Nord, c'est ça. Un grand plan de sauvegarde du Nord, c'est ça.
Uniquement pour le Nord ?
Ben, Roubaix notamment, ils ont mis un sous-préfet, mais on espère que ça va produire quelque chose, parce que pour l'instant, ils proposent des programmes télévisuels. Ben, il n'y a peut-être pas que la télé, hein ? Hein ? C'est ça. Hein, c'est ça ?
Et alors vous...
Le port de Dunkerque, que les containers attendent. Ben, je sais pas, il n'y a plus que la distribution qui marche. Il n'y a plus que la distribution qui marche. On n'ouvre que des centres commerciaux, ben, on aimerait tout de même pouvoir travailler quelque part, hein ? C'est ça.
Ruinés,
qui n'ont pas de sous pour acheter.
Plus personne n'a sous.
Voilà, donc il faut que ça bouge. Il faut qu'on fasse la révolution, monsieur.
Mais je ne sais pas s'il y a une révolution à faire. Moi, je crois que...
On défend des intérêts personnels. C'est une société d'intérêts personnels qui n'est pas solidaire et ça va à la catastrophe.
Je me demande si on ne lâche pas le Nord et qu'il y aurait une alliance irréversible avec les... avec l'Union soviétique, parce que l'île est classée rouge. Rouge, et c'est sa couleur rouge qui tue la ville.
Mais vous délirez, monsieur, vous délirez complètement. C'est ça, espèce de réactionnaire.
Puisque le programme commun
ça réactionnaire.
Le programme commun de la gauche venait de Lille.
C'est pour que... Je m'en fous de la gauche. Moi, je suis le peuple. La gauche, on s'en fout des élections. Piège à con.
On voulait une grande caserne pour toute la France. Les Français n'en veulent pas. Ils veulent leur liberté, les Français.
Bah oui, c'est dans la
liberté.
Et l'égalité.
Voilà, et ça, Moscou a lâché le programme aussi.
On s'en fout de Moscou. On est en France.
Il semblerait qu'il
mais de quoi vous parlez? Vous délirez, là. C'est complotiste. C'est complètement complotiste. Regardez.
Mais Moscou, c'était il y a longtemps, quand même.
Oui, ça fait un bout de temps, mais maintenant, le Moscou qui se prétendait social se prétend capitaliste. Se prétend capitaliste, c'est Gazprom, c'est toutes les grosses sociétés soviétiques, ce qui fait que...
Quel est l'intérêt?
Je ne sais pas, moi, il y a des régions où les gens se paraissent plus heureux, et ici, sur l'île...
C'est pas une question de bonheur, c'est une question de justice sociale. On s'en fout du bonheur, on veut la justice et l'égalité. Pour tous.
Ça n'existe pas, l'égalité.
Regardez, on va le faire, on va l'avoir, on l'aura par la force. Par la force. Non, elle n'existe pas en fausse démocratie. Elle n'existe pas en fausse démocratie. Elle existe comme valeur morale. Il faut défendre cette valeur morale et arriver à ce que la société arrive à cette valeur morale. Et il n'y a que les luttes sociales, nos luttes. Par la lutte, on y arrivera à l'égalité et à la liberté. Elle est possible. Même s'il y a des contradictions entre les deux concepts, elle est possible. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est un concept.
En fait, je vous croise à chaque fois dans les manifs, mais j'étais jamais venu...
Ouais,
ces derniers temps, j'ai l'impression... C'est pas forcément facile de tout lire. Est-ce que vous pouvez m'expliquer ce que vous portez?
Ce que je porte, et en fait ça a démarré avec les Gilets jaunes depuis le début, c'est un combat contre l'iniquité. Je ne supporte plus l'iniquité dans cette société. Et en fait, toutes les étiquettes que vous voyez là en pancarte, c'est l'actualité qui me les a inspirées. Et j'ai essayé de mettre en forme un certain nombre de problèmes qui sont liés justement à ces problèmes d'iniquité, d'inégalité dans nos sociétés. Voilà.
Est-ce que de tête, vous sauriez m'en citer quelques-uns? Cela, vous ne les voyez pas, mais c'est peut-être pas facile.
juste celui-ci, par exemple, qui est d'actualité avec les brutalités policières que Macron et Castaner entendent défendre. J'ai cette étiquette. Quand ça merde, il n'y a qu'un responsable, le chef. Et effectivement, j'ai été amené à diriger des structures pendant plus de 30 ans. Et quand il y avait un problème dans ce que je dirigeais, il n'y avait qu'un responsable, c'était moi. Et je pense qu'eux doivent assumer la même chose. Et en l'occurrence, ce qu'on sait aussi malheureusement, c'est qu'ils ont donné un permis de brutalité aux policiers, qui ne sont pas toujours très futés malheureusement. Mais... C'est inacceptable. Et les responsables de ces brutalités, c'est eux, personne d'autre.
Vous étiez en train de me dire que vous ne supportiez plus l'iniquité. Ça vous est venu d'un coup? Vous la supportiez avant et puis tout d'un coup, ça a été trop?
Non, mais c'est effectivement, c'est en lisant, en me documentant. Et puis avec ce mouvement des Gilets jaunes où on a vu apparaître un certain nombre de gens qui se sont plaints de leurs conditions de vie, qui sont particulièrement... difficile, étriqué, je me suis dit que c'était plus possible. Quand aujourd'hui je vois que, ou je lis plutôt, que les 500 plus grandes fortunes françaises qui représentaient 6% du PIB en 96 ont représenté 25% en 2017, 20 ans plus tard, et 30% en 2018, il y a un problème. quand on sait qu'au niveau mondial, le 1%, les gens qui sont dans le 1% parmi les plus riches, captent 27% de la richesse, quand 50% de l'humanité n'en reçoit que 12%, il y a quelque chose qui ne va plus. Et quand on regarde, disons, ce qui a varié dans le temps, c'est qu'effectivement, les très pauvres, et en particulier dans les pays en développement, ont peut-être eu, ces derniers temps, une légère amélioration de leur situation, mais ça s'est fait au détriment de la population qui avait des ressources immédiatement supérieures, j'oserais dire les moins modestes parmi les modestes. Et ça n'est pas normal. Donc voilà, c'est comme ça toute une série de constats. Bon, et puis c'est vrai, j'ai travaillé pendant 30 ans dans le secteur social, ce qui explique quand même un petit peu les choses.
Est-ce qu'on pourrait s'arrêter pour que vous m'en lisiez quelques-unes et puis que vous les expliquiez ? Parce qu'une phrase comme ça, c'est pas forcément évident à saisir.
Alors ici, bon, j'en ai une, la réforme des retraites, la question est sans doute juste, mais la réponse est injuste. Pour ce qui me concerne, même retraite de 2012 à 2019, c'est-à-dire 8 ans, honte au gouvernant inique. À quelques euros près, effectivement, j'ai la même retraite de 2012 à 2019. Voilà. Qui est privilégié, le cheminot au salaire de 2500 euros par mois ou Bernard Arnault, PDG de LVMH, avec une fortune évaluée aujourd'hui à plus de 100 milliards, c'est-à-dire 7 millions d'années de SMIC, bon, ce qui est quand même un peu énorme.
Je remarque que vous avez dû raturer et ajouter des milliards.
Tout à fait, parce que ces fortunes ont une croissance absolument exponentielle. Et c'est vrai que la première rédaction datait de 2018, fin 2018, et là on est maintenant fin 2019, début 2020, et c'est vrai que cette fortune est passée à 103 milliards. Je crois même qu'il a été première fortune mondiale à 106 milliards et quelques pendant quelques heures, devant Bezos et puis Bill Gates. Alors ici, une chose dont je n'entends pas beaucoup parler dans cette réforme des retraites, robots mécaniques, logiciels algorithmiques remplaçant des actifs doivent cotiser pour les retraites. Les exonérés seraient en faire des travailleurs scélérats. Je suis étonné, alors même que dans toutes les professions, y compris les services avec les algorithmes, on remplace des salariés par des machines qu'on ne pense pas à assujettir ou tout au moins à faire contribuer cette production de richesses pour le régime des retraites. Alors ici, oui, aussi celle-ci là que j'ai, bon, qui dit en avoir assez aujourd'hui, alors des grèves contre l'iniquité, est-il sûr d'en avoir assez demain pour vivre ? Voilà. Ici une étiquette un peu moqueuse, Au France en mai 2017, pourquoi t'es-tu donné à ce beau joli nouveau, missionné par les riches et puissants possédants ?
C'est presque de la poésie, là.
Hein ? Macron aime les arpagons, pompe les vieux croutons, berne les poupons, attend demain ses cachetons, ministres et conseillers suivront, indigne son. Miracle macronien, la France d'en bas ruisselle sur la France d'en haut. C'est d'un pouvoir pécamineux que d'être brutal avec les humbles mais servile des puissants.
C'est une citation ? C'est de vous ?
Non, c'est... À l'heure de la retraite, devant son décompte, chacun va se souvenir de ce qu'il a fait de janvier 2020. Alors, programme de justice, rétablissez l'ISF, bien sûr. Conseil aux voyous, fais les poches des vieux, faibles, ils se défendent peu. Puis tu leur souris et leur dis 8 fois merci. Et ça, c'est en référence à un propos d'Emmanuel Macron le 12 avril 2018. Bon, j'ai ajouté jour du premier chant du coucou, ce qui est un peu méchant. Autre étiquette, l'entreprise n'est pas qu'une pisseuse de cash.
Et alors vous les changez parfois ? Vous en faites des nouvelles selon l'inspiration ?
Oui, j'en ai plus de 200, mais j'avoue que c'est un travail que de changer. Donc c'est pas systématique et c'est pas tous les jours que je les change. Mais j'en ai d'autres, j'en ai bien d'autres.
Et vous voyez ça un peu comme un travail artistique ou pas ?
Oh non, pas spécialement. C'est une contribution. Une dame, ça m'a fait plaisir, mais d'une fois en regardant un petit peu ces étiquettes, ça m'aide à comprendre la situation dans laquelle on est. J'ai trouvé que c'était intéressant. Bon, je ne sais pas si je fais œuvre pédagogique, mais j'essaye de dire mon point de vue et mon indignation. Et ça n'est pas possible de continuer comme ça. Bon, malheureusement, je ne suis pas sûr que des manifestations telles que celles qu'on connaît aujourd'hui, qui sont tout à fait polies et correctes, vont faire bouger des gens qui sont complètement, complètement figés. J'avais aussi pensé d'ailleurs à cette étiquette, hein, pénurie de balais, Matignon a tout avalé, voilà.
Et alors qu'est-ce qui serait impoli et incorrect, et donc plus efficace ?
Il faut que ces gens, on l'a déjà vu à d'autres moments, ou aient peur, ou se sentent menacés dans leur pouvoir, dans leurs avoirs. Ce que je pense aussi vis-à-vis des gens qui copilotent cette politique actuellement, bon, qui sont les gens particulièrement puissants, c'est que c'est par une consommation un peu plus responsable, c'est-à-dire en choisissant quand même sa consommation, qu'on pourrait, à mon avis, les faire réfléchir. Je vais prendre juste un exemple. Bon, pratiquement aujourd'hui, tout un chacun qui va sur Internet pour consulter différents sites passe par Google. Il y en a d'autres aujourd'hui quand même. Bon, et Google, on sait ce qu'il fait des données qu'il puise à travers ses différentes consultations. Voilà, enfin, je pense qu'il y a beaucoup à dire. On pourrait dire beaucoup de choses. Ce qu'il faut surtout, c'est que les uns et les autres se documentent. C'est assez atterrant, d'ailleurs, quand on discute. Alors, certains sont bien documentés, mais pour nombre de gens, bon, à part quelques yakas, malheureusement, on a de la difficulté à avoir une conversation qui tienne la route avec une connaissance des enjeux.
Nous nous devons dès maintenant de rendre au quatrième pouvoir, presse, télévision, radio, institut de sondage, son indépendance en libérant ses entreprises de l'emprise oligarchique par l'instauration de coopératives de salariés associés. Aujourd'hui, mes amis, prenons l'engagement commun de continuer notre légitime et juste combat d'émancipation jusqu'à ce que nous, le peuple, ayons repris notre destin en main. Partout où nous sommes, ne cédons pas aux tentatives d'enfumage et de récupération politicienne et syndicale. Les structures pyramidales, autoritaires et opaques des partis politiques et des syndicats ont trahi systématiquement, et cela depuis 50 ans, la cause du peuple. Ces structures font partie du problème et ne pourront donc pas contribuer à sa résolution tant qu'elles resteront sous ces formes d'organisation. Amis gilets jaunes, syndiqués et encartés, vous qui formez la base de ces syndicats et partis, il est temps d'y instaurer la démocratie directe et intégrale. Il est temps que vous imposiez des mandats impératifs et les audits permanents des finances et du travail de vos représentants par des commissions tirées.